Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Ici, toutes les semaines, on regarde pour vous Monday Night Raw, le show phare de la WWE. Et on vous analyse ça, on vous résume ça. Vous nous retrouvez sur iTunes, sur PodCloud, sur Twitter, c'est Catch Up CDC, sur Facebook, c'est Catch Up CDC aussi. Et bien sûr, sur la chaîne YouTube des Cahiers du Catch. Pour m'accompagner, pour parler du Monday Night Raw du 7 août 2017, le fameux champion de catch-up, Hank. Comment ça va, Hank ?
Fameux champion de catch-up, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle définition ? Ça va. Tranquille.
Ça va, la forme ?
Ça pète la forme, je ne fais qu'attendre mes vacances, donc je suis au bout du rouleau. Mais ça va toujours.
On est toujours au bout des rouleaux avant les vacances. Et également avec nous ce soir ou ce matin, suivant quand est-ce que vous écoutez l'émission, l'homme invisible de Catch Up, Raphaël. Comment ça va, Raphaël ?
Eh bien, écoute, ça va bien. Moi, mes prochaines vacances sont pour 2018, mais je ne suis pas encore au bout du rouleau, donc on va dire que ça va.
Tout va bien. Heureux papa d'un panda, Raphaël ?
Oui, voilà. Je suis en forme comme quelqu'un qui vient d'avoir un bébé panda dans son entreprise. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut faire.
Que du bonheur. Que du bonheur. Allez, on attaque tout de suite parce qu'on a un show énorme. Ça se passait à Toronto, ce Monday Night Raw au Canada. Au programme de ce soir, un invité très spécial pour Miss TV, coup de tonnerre dans la division féminine et combat à mort entre le Big Dog et le monstre parmi les hommes, Braun Strowman. C'est ce qui est annoncé d'entrée de jeu pour l'émission. Donc, Roman Reigns affrontera Braun Strowman dans un last man standing. Ça, c'est en fin de show. L'ouverture du show, c'est le Miz, c'est Miss TV qui, ce soir, décide d'inviter Jason Jordan, le fils de Kurt Angle, le fils génétique, comment on dit, le fils illégitime de Kurt Angle, avec qui il est en rivalité depuis quelques semaines. Le fils biologique, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Mais Jason Jordan ne viendra pas, c'est la musique de Kurt Angle qui retentit. Kurt Angle qui débarque sous les vivas de la foule, très populaire ce soir. Il annonce effectivement que Jason Jordan ne viendra pas, car ce soir il va affronter nul autre que Curtis Axel, le comparse du Miz. Mais Kurt Angle a programmé un autre invité de prestige pour Miss TV. Rien moins que le champion de l'univers, Brock Lesnar, qui vient accompagné de Paul Heyman. Alors là, tout de suite, ça c'est plus calme hein, dans les coins de Miss TV. Brock Lesnar débarque de suite, accompagné de son avocat. Ils arrivent dans le ring. Mais là, le Miss TV, finalement, ne se démonte pas. Il fait le coup de la main levée à Paul Heyman en disant « Quand ma main se lève, tu fermes ta bouche ». Et là, il se lance dans une imitation de Paul Heyman qui, entre-temps, a acheté son micro, hein, énervé. Donc voilà, il commence à imiter Paul Heyman et il annonce la défaite de Lesnar à SummerSlam en expliquant que, effectivement, Brock Lesnar peut perdre facilement son titre puisqu'il n'est pas obligé de prendre le tombé pour perdre le match. Et ça, c'est un peu la faute de Paul Heyman hein, qui est censé être l'avocat et défendre les intérêts de Brock Lesnar. Et donc, le Miz explique qu'il miserait sur tout le monde, mais sûrement pas sur Lesnar. Et que, au soir de SummerSlam, Brock Lesnar rentrera sûrement chez lui pour quitter la WWE, hein, parce que de toute façon, il a visiblement d'autres objectifs. Et il termine en disant « T'as quelque chose à ajouter, monsieur l'avocat hein, ?» d'un ton de dédain. Paul Heyman s'inquiète alors de savoir si le Miz et Maryse pratiquent des jeux de rôle dans leur intimité. Hein, il reprend le micro et c'est la question coquine qu'il pose au Miz. Parce qu'il dit, lui, moi Paul Heyman, je suis à fond dans les jeux de rôle et puis je propose d'en jouer un ce soir. Donc Brock Lesnar jouera Brock Lesnar et le Mistourage, vous jouerez le rôle des aspirants au titre universel de SummerSlam. Hein, donc le Miz, ce sera par exemple Roman Reigns, Curtis Axel jouera Samoa Joe et Bo Dallas, le taré Bo Dallas, jouera le. Qui c'est qui reste dans le Triumvirat Braun Strowman. Voilà. Et ben, il en faut pas plus, hein. Brock Lesnar, il aime bien les jeux, c'est parti, il s'amuse avec le mistourage, il les fait visiter Suplex City, des souplesses dans tous les sens, des F5 pour tout le monde. Voilà, tout le monde est mort dans le ring, Brock Lesnar s'en va triomphant, voilà l'ouverture de ce Monday Nitro. Hank, qu'est-ce que tu en as pensé?
Oui, c'était une séquence plutôt marrante. Le truc marquant dans cette séquence, c'est quand même que le Miz, c'est probablement le seul mec dans tout le roster qui arrive à vraiment pas du tout se démonter devant Lesnar et paraître. On n'a pas l'impression qu'il lui fait peur du tout en fait quand il sort sa promo. Alors que quand même bon n'importe quel catcheur normalement dans le du moins en kayfabe dans le roster bon dès que Lesnar arrive à part si tu fais partie du carré du carré d'or qui fait le main event le reste des catcheurs normalement ils sont complètement flippés de Brock Lesnar et là Lumis il sort sa promo qui est vraiment assez bien vue bien écrite enfin bien délivrée c'était vraiment cool et donc oui non c'était une intro très bien faite qui nous apporte pas grand-chose de plus mais qui reste amusante et puis qui permet de justement de revoir Lesnar et que de faire sentir un petit peu que Lesnar est concerné par cette rivalité même si on a plus l'impression, même après cette séquence-là, on a plus l'impression qu'il est là. Bon, une nouvelle fois, il a l'impression, enfin, il donne l'impression qu'il vient chercher son chèque. Hein. Il se met au milieu du ring, il croise les bras. Bon, c'est à quelle heure que je fais mes F5? Bon, bah, c'est maintenant. Et puis après, il s'en va. Mais bon, ça faisait le boulot. C'était une bonne intro.
Ouais. En début de show pour avoir accès à l'hôtel, au room service.
Oui, voilà, c'est ça. Après, on le revoit plus. En fait, c'est limite. On se demande si c'est pas lui qui demande expressément à la WWE, faites en sorte que mes segments soient généralement en début de show, histoire que je sois libre pour la soirée. Parce que moi, j'ai
C'est
des
ça,
choses
ouais.
plus importantes à faire, s'il vous plaît.
Moi, je pense que ça joue comme ça, effectivement. Alors, Raph, ce champion universel par timer, est-ce qu'il t'a convaincu ce soir ou pas du tout?
Bah, le principe du champion universel par timer, pas trop, mais je trouve qu'effectivement c'était une intro inattendue. Lesnar n'était pas prévu, c'est une bonne surprise. L'interaction avec le Miz est très bien. La promo est bien écrite. C'est vrai que c'était un bon angle d'attaque. Après tout, il n'y a que Lesnar qui vient avec son propre avocat. C'est le seul catcheur qui fait ça. Et pourtant, il arrive quand même à se retrouver dans des situations un peu merdiques pour lui. Donc, non, c'était bien écrit, c'était bien vu et c'était plaisant, ma foi.
Ouais, de la surprise, de la violence, c'était extrêmement violent quand même les F5 qu'il a portés, les souplesses sur ses adversaires.
Vrai.
Et une arrivée surprise de Brock Lesnar, c'est quand même bien efficace pour une entrée de show. Et alors tout de suite après, on se retrouve dans les vestiaires avec Seth Rollins, tout sourire, qui débarque au ring avec une musique modifiée. On lui a rajouté un petit truc en rapport avec la pub.
Ou je
Voilà,
suis burn,
burn
je
it
sais pas quoi,
down.
down.
Ouais, voilà. C'est
C'est nul,
ridicule.
c'est
C'est
nul
nul
à
à
chier.
chier. C'est nul à chier. Il affrontera ce soir Sheamus, qui est accompagné de Cesaro. Ils sont déjà affrontés la semaine dernière, c'est un match retour. Alors Rollins s'attaque rapidement et prend l'avantage jusqu'à ce qu'il se fasse écraser les roubignoles sur la troisième corde pour ensuite se faire slammer sur le tablier du ring. Ça, c'est juste avant la pub. Sheamus va monter sur le coin du ring, mais Rollins réussira à le piéger dans un Hurricane Rana enchaîné sur un super kick. C'est ensuite au tour de Rollins de monter sur le coin, mais une distraction de Cesaro lui fait louper sa descente et l'Irlandais le piège dans un roll-up pour la victoire. Après le match, Rollins va effectuer un topé suicida sur Sheamus, mais il se fera rosser par les champions par équipe. Le public réclamera Dean Ambrose, hein, qui apparemment ils sont en tentative de réconciliation depuis quelques semaines, mais Dean Ambrose ne viendra jamais. Il s'expliquera dans les coulisses un peu plus tard en expliquant que voilà, il avait prévenu Rollins, il lui avait dit tu m'as déjà fait le coup la semaine dernière, tu te mets dans des situations où il faut que je vienne t'aider, mais ça se passera pas comme ça, je sais qui tu es. Ce soir j'affronterai Cesaro, seul comme toujours. Je vais peut-être passer tout de suite au segment un peu plus tard dans l'émission avec Dean Ambrose donc, qui affronte Cesaro avec Sheamus toujours dans le coin du ring. Alors un match original mais brouillon, il tente des choses, notamment un spot avec un superplex où Cesaro a les deux pieds sur le poteau qui se termine par une belle souplesse arrière. Cesaro tente un torture rack modifié aussi, assez original, des enchaînements de souplesse, hein, avec on tient la personne, on enchaîne les souplesses. Un topé suicida d'Ambrose sera contré par un European Uppercut. On va retenter un nouveau superplex, toujours contré par Ambrose. Des gros échanges de patates, des gros kicks de Cesaro, la Lunatic Lariat. Mais encore une fois, Sheamus intervient, distraction. On place Ambrose dans le sharpshooter, mais Ambrose réussit à atteindre les cordes. Cesaro est projeté par-dessus la troisième corde. Descente du coude, mais alors nouvelle distraction de Sheamus, mais comme Ambrose a vu le début du show, il s'en sort, il piège Cesaro dans un schoolboy, pour la victoire. Ambrose se fait molester ensuite après le match. Rollins vient le sauver, grand prince, même s'il n'a pas été aidé en début d'émission. C'est le face-à-face tant attendu. Ambrose finit par craquer, il tend le poing hein, en signe de réconciliation, le signe du shield, mais finalement Rollins se défile. Il n'y aura pas de réconciliation définitive ce soir. Donc, Ambrose, Rollins, les anciens du Shield, en rivalité avec les champions tag team. Mais l'équipe n'est pas encore faite. Qu'est-ce que tu en penses, Raph ?
Ouais, c'est un peu un mélodrama quand même. J'ai pas trop aimé la fin. Alors j'attends de voir ce qu'il nous donne, mais c'est vrai que ça commence à être un peu répétitif. Il y en a un qui veut être ami avec l'autre veut pas, puis quand finalement le deuxième est d'accord, le premier veut plus. Bon, j'attends de voir ce qu'il nous trouve comme motif. Sur le principe, Ambrose et Rollins en tag team, je pense que ça peut au moins temporairement, parce que Ambrose sur le ring tout seul, c'est un peu limité. Rollins, il faut qu'il patiente un peu. Et puis Cesaro et Sheamus, il leur faut des adversaires de prestige. Donc si après les Hardy Boys, ils tapent les anciens du Shield, c'est quand même pas mal. Le match de Ambrose et de Cesaro était très long. Moi, j'ai trouvé, comme tu as dit, très brouillon. C'était bizarre. C'était un match de Ambrose plus que de Cesaro, mais avec des choses intéressantes. Je trouve quand même dommage que ce soit toujours Cesaro qui apparaisse un peu comme le maillon faible de l'équipe. Lui, Sheamus, il prend pas de tombée alors que lui, il en prend un. C'est un peu dommage. J'aime bien sur le principe la rivalité. J'aime bien les personnages en présence, mais ça fait un peu de... Je sais pas trop où ça va là encore. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça va se réconcilier? Sûrement. Mais alors pourquoi attendre une semaine de plus? Je ne sais pas trop.
Justement, qu'est-ce que t'en penses, Hank ?
Eh ben moi, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Voilà, merci. Prochain segment. Donc du coup, je trouve que cette semaine, ils m'ont intéressé encore. Enfin, je crois que c'est la première fois qu'ils m'intéressent vraiment. Enfin, ils me font vraiment rentrer dans la storyline. Parce que justement. Je trouve assez inattendu que ça se termine sur Rollins qui refuse de faire cette espèce de point du shield. Autrement, j'ai vraiment aimé, moi, malgré bon, le côté brouillon, etc. Ça ne m'est pas forcément sauté aux yeux. Peut-être aussi que, vu que je suis fatigué en ce moment, je ne fais pas gaffe. Mais le Cesaro Ambrose, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ambrose en a pris quand même plein la gueule, même si tu dis que Cesaro, Cesaro s'est fait battre et pas Sheamus. Quand même, Cesaro, il lui a mis pas mal de choses. Je pense qu'on a rarement vu une aussi grosse branlée d'Ambrose ces derniers temps, malgré le fait qu'il gagne à la fin. Mais quand même, d'ailleurs, il le rappelait dans les commentaires pendant le match qu'au bout de je sais plus quelque chose comme une dizaine de minutes de match, il rappelait à quel point Ambrose justement là, on revenait à ce qui marche chez Ambrose, c'est-à-dire l'espèce de carpet, enfin pas de carpet, mais l'espèce de punching ball qui ne veut jamais rester à terre, quoi. Donc là, il y avait des séquences qui étaient bien. Est-ce que la construction en général était vraiment bonne de A à Z? Non, je pense pas, parce que C'est Ambrose, donc du coup, il a toujours cette espèce de come-up, enfin, ces espèces de moments où il nocelle, en fait. C'est un peu le gros souci d'Ambrose. Ah, bah, la lumière s'est éteinte chez moi. donc, du coup, ces moments où il nocelle, et donc, du coup, ça casse un peu le rythme du match, parce qu'il y a toute une progression, et après, il fait son, voilà, lunatic lariat, là où il passe à travers les cordes, et ça, c'est le truc qui énerve tout le monde. Enfin, sauf, on va dire, les fans hardcore de catch, généralement, c'est le truc qui les énerve. Mais donc, ouais, la storyline, je pense, a gagné en épaisseur cette semaine-là, parce que on n'est pas du coup, Rollins a un peu d'ego, et justement c'est ça qui est important dans la rivalité, c'est que on nous montre semaine après semaine Rollins comme le babyface ultime, enfin ultime, le babyface qui est prêt à tout pour se faire pardonner de son copain. Bon, du coup c'est très mélo et tout ça. Mais il faut quand même garder un minimum, sans être macho, un minimum de virilité dans le personnage. Donc là, ça fait deux fois qu'on le renvoie chier deux semaines de suite. Enfin, même si je crois qu'Ambrose l'a quand même sauvé. Enfin bref, mais deux fois, deux semaines de suite où on le traite de, voilà, il le traite de traître et il dit pourra plus jamais lui faire confiance. Et là, du coup, il va le sauver, il va lui prouver que voilà, il a besoin de lui. Enfin. Prouver que Ambrose a besoin de Rollins, mais à la fin, il dit maintenant c'est à toi de reconnaître, à mon avis ça va être ça la semaine prochaine, ça va être à Ambrose de reconnaître qu'il a besoin de Rollins, de lui dire clairement en face à face. Et après bah voilà, on va avoir j'espère, je croise les doigts, une tag team. Ou alors carrément, mais je pense que c'est un peu trop rapide à faire. Un heel turn de Ambrose sur Rollins, et c'est pas la bonne chose à faire, parce que dans les tag teams là on est dans la merde en ce moment. Enfin, il y a les Hardys qui sont plus là, il y a Revival qui y a encore un Revival de blessés, donc c'est le bon moment justement pour avoir une nouvelle tag team, et Ambrose Rollins c'est forcément une très bonne tag team à voir en pay-per-view. Voilà, j'étais un peu long, mais
les Hardys sont plus là.
Les Hardy n'étaient pas là cette semaine, et je pense qu'ils sont en train de reconstruire. En fait, ils sont en train de reconstruire le gimmick, soi-disant. Maintenant, ils sont woken. C'est le nouveau truc qu'ils veulent construire.
D'accord.
Je pense qu'ils sont en train d'écrire, en fait, tout le côté comment ça va se présenter, la gimmick et tout ça. Donc, le pay-per-view est un peu près, quoi. Le pay-per-view est un peu trop proche, je pense, pour les ramener construire un truc d'ici là. Mais.
Ouais, puis il partait un peu en feu contre les Revival qui sont blessés aussi. Je pense que ça doit jouer. Ouais. Enfin, je sais pas.
C'est sûr. Moi, j'ai envie de voir ce match tag team là, entre Dean Ambrose et Seth Rollins. Et les champions Sheamus et Cesaro à SummerSlam. Je pense que ça peut donner une très belle chose. Et je trouve que c'est bien leur place à Rollins et Ambrose, le milieu tag team, parce qu'ils ont un peu plus rien à faire en solo pour l'instant. C'est un petit peu bouché de chaque côté, ils sont un petit peu grillés chacun. Pour l'instant, oui, après ils peuvent très bien revenir, hein. C'est des main eventers potentiels, mais...
Il faut juste que Strowman se blesse, en fait.
Voilà, c'est ça, hein. Strowman est blessé, que Roman Reigns se fera toper pour dopage, voilà, ils auront une ouverture, mais pour l'instant, c'est plutôt bien de les faire partir là-dessus, et ça peut déboucher sur un Shield versus les Hardy aussi, hein, contre les Hardy Boys après, par la suite, donc ça c'est... C'est monnaie. La suite au prochain numéro. Là, on a été frustrés. Mais je pense qu'on la verra, cette réconciliation, cette grande image. La suite. Le fils biologique de Kurt Angle. Jason Jordan contre Curtis Axel. Ce match n'aura pas lieu. Curtis Axel est blessé. Il s'est mangé un F5 et quelques souplesses arrière par Brock Lesnar. Il ne pourra pas être dispo pour le match. Donc, Kurt Angle, dans les vestiaires, trouve un remplaçant de dernière minute dans la personne de Jean-Pierre Goulet, un local canadien, qui va se faire exploser par Jason Jordan. Sous les huées de Toronto, qui n'apprécie visiblement pas du tout le fils de Kurt Angle. Voilà, vraiment hué comme c'est pas permis, hein, Jason Jordan. Qu'est-ce que t'as pensé de ce nouveau top babyface, Hank?
Non, mais c'est. Si décident vraiment de continuer sur leur idée que c'est un babyface, bah c'est la catastrophe. Enfin, ça va tomber dans ça. C'est bon, on n'entendra plus parler de Jason Jordan dans 3 mois, je pense. Ou alors on entendra parler, mais comme jobber. Donc voilà, là c'est le moment de comprendre. Mais en plus, c'était facile à comprendre dès le début qu'il fallait qu'il soit heel, parce que il a le même comment? Du coup, ouais, il a le gimmick de Kurt Angle un petit peu quand il est arrivé, c'est-à-dire professionnel du vrai catch, enfin de la vraie lutte et super athlète irréprochable, monsieur parfait, dents blanches, etc. Donc forcément énervant, donc forcément un heel. Il a que ça, voilà, c'est que ça, sa personnalité. Donc c'est voilà, c'est clairement une copier-coller de Kurt Angle. Même la façon dont on nous l'a présenté, les interviews qu'on nous a faites de lui et sa façon de répondre, que ça soit volontaire ou non d'ailleurs, on ne sait pas si c'est parce qu'il était pas bon dans les promos ou alors qu'il était censé être énervant dans les promos. Mais tout ça fait que c'est évident qu'il doit être heel. Et d'ici 2 semaines là, pas dans 2 mois. Donc
Ouais.
soit ils le mettent heel, ou soit bah on part à la catastrophe et puis il fera des pré-shows au mieux, il fera des pré-shows et puis sinon il restera avec les jobbers pendant que apparemment son copain Gable s'amuse plutôt bien à SmackDown et se fait respecter lui. Donc voilà.
Carrément. Vaut mieux pas être dans les bons papiers des bookers pour réussir sa carrière, visiblement. Raph, il y a quelque chose à sauver dans cette mauvaise idée mal exécutée?
Oui, ben, je pense qu'à la base, ils veulent en faire un babyface, mais effectivement, c'est hyper facilement rattrapable. Hein, ça s'écrit très facilement. Tangle est le gentil, c'est son nouveau papa qui va essayer de vouloir un peu l'aider. On peut très bien imaginer Jordan qui se la joue un peu bah, adolescent rebelle, qui lui dirait ah, j'ai pas besoin de tes conseils ou tout ça, et qui se la joue un peu tout seul, un peu prétentieux. Là, sur ce segment, cette semaine, ouais, s'ils veulent en faire un top babyface, c'est hyper mal écrit, quoi. Déjà, le mec, il a un adversaire que personne connaît, enfin, je sais pas, affronter comme ça un no-name, d'habitude, c'est les heels qui font ça, c'est Strowman ou Nia Jax, quoi. Ou, ouais, Ryback, il était face et il faisait ça, mais bof, non, c'était vraiment pas terrible. Pourtant, je pense qu'il y aurait moyen aussi de le sauver en face, parce qu'il a quand même des figures très très spectaculaires, mais. Non, ça va finir jurisprudence New Day, quoi. Ils vont tenter de le faire face encore quelques semaines. Il va se faire huer, ils vont le passer heel et dans 2 3 mois, il sera redevenu populaire, il sera redevenu face. Je le sens comme ça.
Mais il catch comme un heel, hein. Enfin, il catch ultra violent, voire un peu brouillon même. La façon
Ouais,
dont
il
il
est
fait
parti.
ses slams ou ses souplesses, des moments, c'est un peu.
Ouais, c'est plus du botch,
Ouais, voilà, c'est
il
un
doit
peu.
avoir
Je fais
l'impression quand
na...
même. Hein.
je fais tout le plus vite possible et je balance le mec un petit peu à la va-vite. Donc, c'est rien que sa façon. S'ils veulent le garder en babyface. Rien que ça, il faut le changer de base. La façon dont il catch là, c'est pas un catch de babyface. Là, il est ultra rapide, violent et voilà, il est. En plus, il a cette tête énervée. Je sais pas si c'est naturel, mais il a une tête de haineuse pendant ses matchs. Généralement, il y a toujours un moment où il s'énerve et il a une grosse
Quand il
colère.
enlève ces trucs-là.
Donc voilà, c'est. Non mais ça, ils sont en fait. J'espère qu'ils ont changé du coup de leur fusil d'épaule peut-être la semaine dernière, mais là ils partent tout ce qu'ils font contredit l'objectif qu'ils ont en tout cas. C'est-à-dire la façon dont ils le présentent, la façon dont ils catchent, etc. Tout oriente vers un mec heel. Donc voilà.
On verra. Qu'en penses-tu ringside toi-même?
Moi, je l'ai dit depuis le début, Jason Jordan, Jinder Mahal, même combat, mauvaise idée dès le départ. C'est C'est flingué, ça ira nulle part. Sa carrière, elle est cuite. Mais ils peuvent sauver le coup, mais va falloir qu'effectivement que ça passe par un heel turn ou qu'ils aient un atout dans leur manche qui transforme cette intrigue en quelque chose de vraiment original. Mais là, en l'état, ça ira nulle part. Il est cuit, les gens le prendront jamais au sérieux, Jason Jordan.
Et puis, le public n'est pas forcément... C'est pas forcément le modèle du public habituel, parce que le public de Toronto est quand même une grosse bande de connards. Mais quand même, on a déjà, là, cette semaine, déjà des chants... Let's go Jobber, quoi, pendant tout le truc.
Ouais.
Jordan, il s'est fait huer à la sortie.
Ça doit être difficile à vivre, hein, pour lui. Ça me fait penser, ouais, à Roman Reigns quand ils ont fait gagner le Rumble avec The Rock, là. Le gamin, il a de la pression sur les épaules, hein, en même temps.
C'est ce que je me disais, si jamais il gagne le Rumble l'année prochaine, c'est fini pour lui.
Il va pleurer.
Mmh. Nous aussi. Ouais, puis nous aussi. Non, mais c'est à un moment donné, quand t'as une idée de merde et que tu l'as fait mal, que c'est mal exécuté, ben ça donne rien de bon. Hein. Donc ça, c'est. Ça fait partie des idées de merde un peu qui traînent à la WWE en ce moment. Il y en a quelques-unes. Ça serait bien qu'ils se rattrapent et qu'ils fassent un effort quand même sur des choses comme ça, parce que c'est très vieux jeu, c'est pas novateur. Et je pense pas que ça intéresse qui que ce soit au final. Hein. Donc. Voilà, petit carton rouge sur cette histoire. Coup de tonnerre dans la division féminine. Bayley est blessée. Elle s'est démis l'épaule, hein, lors de son match la semaine dernière contre Nia Jax. Donc elle est hors jeu pour SummerSlam. C'est fini, elle participera pas au plus gros show de l'été. Elle vient faire une annonce, parce que tant qu'à faire, tiens, autant lui faire parler, elle est tellement douée pour parler, Bayley. Elle est interviewée par Charlie Caruso au milieu du ring. Donc on montre un ralenti des images de la semaine dernière où elle s'est blessée. Elle n'arrive pas à regarder les images, hein, c'est trop pour elle. Elle remercie la foule, mais elle se fait huer. Voilà, elle met sa pièce sur Sasha Banks, hein, parce qu'on lui demande son avis sur qui c'est qui va être challenger à SummerSlam, hein, ça va jouer entre Sasha Banks et Nia Jax. Voilà, naufrage complet sur cette séquence.
Tu nous teases direct les matchs qui vont avoir lieu.
Ouais,
je vous tease direct la finale.
J'avais dit, non, ça va se jouer.
Ah, parce qu'il y avait un suspense,
Emma.
C'était pas.
Ça va se jouer entre.
Il y a 6 meufs quand même.
Il y a 6 meufs en.
Mickey James, Dana Brooke.
Ouais, ouais.
Alicia Fox.
J'y arrive. Il y a Alicia Fox et Emma qui arrivent au ring. Qui arrive au ring, voilà. Alicia Fox, Emma contre Sasha Banks. C'est le match qui suit.
Et
avec
franchement,
Alexa
t'es pas obligé de le faire mouvement par mouvement. Hein. Tu peux donner le résultat direct.
T'as donné le résultat, passe à la... Ouais, explique.
je vous dis pas que Emma va écraser le dos de Sasha Banks sur le tablier du ring à un moment donné. Non, bon.
Non, mais si,
c'est victoire de Sasha Banks. Hein, elle a failli se faire voler la victoire par Emma. Oui. Mais ça n'a pas fonctionné. Elle fait taper Emma, d'ailleurs. Hein. Un peu plus tard, on a Nia Jax contre Dana Brooke et Mickey James. C'est Nia Jax qui gagne avec une descente de la cuisse sur Dana Brooke.
Avec une double blessure.
Voilà, elle a dû tuer deux personnes ce soir. Je comprends pas qu'il la fasse
Brooke.
Encore catcher.
Dana Brooke, qu'est-ce qu'elle a pris, Dana Brooke? Oh là là.
Ouais, elle a mangé, hein. Elle a mangé cher.
Ouais. Nia Jax qui a une immunité diplomatique à la WWE, hein, parce que semaine après semaine elle blesse des gens. Elle a toujours des opportunités pour le titre.
Une autre idée de merde qui traîne à la WWE.
Moi j'étais un grand supporter de Nia Jax, mais je commence à être un peu saoulé du nombre de gens qu'elle blesse.
Ouais, non, là c'est dangereux. Hein. Là, c'est dangereux, hein, elle a failli tuer Charlotte il y a pas longtemps. Là carrément blessée. Bayley, et en plus elle l'achève, ouais, parce que Bayley elle se démet l'épaule sur une chute et Nia Jax lui fait sa prise en la prenant les bras coincés derrière les épaules, elle les écrase au sol. Mais alors, c'est vraiment aucun respect pour son adversaire, quoi. Donc là c'est carton rouge aussi pour Nia Jax. Du coup, qu'est-ce que tu penses de toute cette division féminine là qui doit être rattrapée?
La division féminine, voilà, ça va être un peu long, la division féminine. Mais Bayley au micro, c'était une très mauvaise idée de venir Faites une vidéo, quoi. Faites juste une vidéo.
C'était pas nécessaire.
Je sais pas comment vous pouvez la tourner, mais vous mettez des images du match. Limite un petit commentaire de Bailey, genre c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, blablabla. Et puis là, on montre une image du match. Et voilà, vous faites un petit package de 2 minutes expliquant que voilà, Bailey sera pas là à SummerSlam. Et point barre. C'est pas. Les gens ne compatissent pas avec les gens qui chouinent. Avec les catcheurs qui chouinent. Si vous ramenez un catcheur au milieu du ring pour qu'il vous annonce, à part si c'est un départ à la retraite, mais sinon, si c'est quelqu'un qui va vous annoncer qu'il va être absent les prochaines semaines, etc., personne va compatir. Au mieux, vous aurez un silence. Au pire, vous aurez Toronto qui vous boue ou Chicago qui vous crache à la gueule. Mais voilà. Donc c'est une très très mauvaise idée ce qu'ils ont fait. Et puis c'est en train, voilà, c'est encore une mauvaise décision sur le personnage de Bailey. Et c'est encore une fois un truc qui endommage l'aura de Bailey. Il y en a marre de montrer Bailey comme une chouineuse, comme une fille fragile. Voilà, il y a d'autres catcheurs qui sont blessés, ils viennent pas au milieu du ring pour dire oh mon dieu je suis tout fragile ou alors oh mon dieu c'est à ce moment là que mes rêves se sont brisés, je serai pas là au prochain pay-per-view. Les gens ils le devinent ou ils le savent, ils vont le savoir forcément dans un package parce que vous allez le rappeler, les commentateurs vont le rappeler, les vidéos playback vont le rappeler. Il n'y a pas besoin de limite de ridiculiser, quoi. C'est quasiment ridiculiser un catcheur que de lui demander d'aller au milieu du ring et de dire je me suis blessé et machin. Et puis alors là, le comble du ridicule, c'est lui demander alors c'est qui votre favorite. Mais elle n'a pas à dire quelle favorite. Elle est censée se battre pour la ceinture. Elle est censée être genre pour elle-même, quoi. Il y en a marre qu'il la montre comme quelqu'un qui vit à travers Sasha Banks. Elle passe son temps à vivre à travers Sasha Banks. Dès qu'il y a Sasha Banks, c'est genre, sauf si elles sont l'une contre l'autre, c'est genre, ouais, je veux trop que tu gagnes, etc. Alors que non, elle devrait pas être. Tu peux être ami être débile ou en être au sacrifice de ton propre objectif. Donc c'est très mal construit. C'est pour ça que ça fait des mois que je dis arrêtez avec l'amitié Bailey Sasha Banks, parce que vous pouvez à la limite la jouer, mais très très simplement de temps en temps, mais le faire semaine après semaine, on en arrive à des choses comme ça. On en arrive à genre elle se blesse et du coup elle doit jouer encore l'amitié avec Sasha Banks, donc du coup on a l'impression qu'elle est redevenue jobbeuse presque, qu'elle est là à supporter, genre ouais, c'est pas moi, mais tant mieux si c'est ma meilleure copine. Et là, et du coup, ça devient. Ça fait comme si on se disait, alors la ceinture, c'est pas si important pour elle. Autant que sa copine l'est.
C'est ça.
C'est nul à chier. Voilà.
Raph, t'as quelque chose à ajouter sur tout ça ?
Je pense que derrière tout ça, ils gardent l'idée qu'un jour, ils vont faire un heel turn de Sasha Banks sur Bailey. Ils le veulent, donc ils ont intérêt à renforcer à fond ce lien pour qu'on compatisse sur la pauvre Bailey qui va se faire trahir. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Et surtout, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils restent vraiment dans la dynamique de ces 6 derniers mois, voire plus. C'est-à-dire, c'est toujours les 3-4 mêmes. Là, quand on a su les deux triple threats, c'était évident que ça allait finir sur Sasha Banks, Nia Jax. Et c'est dommage parce que on aurait pu profiter des triple threats pour avoir, mettre en valeur un peu Emma, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'elle peut faire depuis qu'elle est revenue. Mais si on fait pas confiance à Emma, peut-être on peut redonner une chance à. Ouais, bon, il y a pas grand monde d'enthousiasmant, mais Mickey James ou je ne sais qui. Donc là, on va se retrouver avec Sasha Banks très probablement contre Alexa Bliss. Moi, pour moi, il n'y a que Alexa Bliss que je trouve intéressante là en ce moment. Donc, c'est la championne, et tant mieux pour elle au final. Mais sinon, ouais. Bof.
Bof, bof. L'incapacité de la WWE à créer des babyface, c'est aussi effectif chez les filles. On le voit avec la pauvre Bailey. alors que Alexa Bliss, elle marche toujours un petit peu sur l'eau. Voilà, ben, c'était un petit point noir dans l'émission. On va continuer, on se retrouve dans les vestiaires avec Braun Strowman qui se fait interviewer par René Young. Il nous explique qu'il aime faire mal à Roman Reigns, il aime lui taper dessus. Et il va transformer le Big Dog en petit chiot. Hein.
J'aime regarder son regard lorsque l'espoir.
Voilà, il détaille ça.
Lorsque l'espoir s'en échappe. Et sa description était limite, des moments limite un petit peu, je vais pas dire érotique, mais genre, j'aime lui taper poétique. Sur le torse. Alors, on continue.
On va enchaîner.
Oui, oui, oui.
Enzo Amore, bon, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Qui débarque au ring, super populaire par contre, Enzo Amore. Hein. Alors, il est tricard hein, à la WWE, il a plus le droit de s'habiller avec les collègues, virer des vestiaires. Il ouvre trop sa gueule, il critique le business, il se prend pour une star. Mais par contre, il est toujours très populaire. Donc voilà, il vient présenter le Big Show, tout simplement. Donc il fait sa petite présentation habituelle, mais cette fois c'est le Big Show qui débarque, pas Big Cass. Alors ils font un petit duo comique dans le ring, mais heureusement ils sont interrompus assez rapidement par Anderson et Gallows, qui leur lancent un défi. Alors Enzo souligne une ressemblance entre le Docteur d'Enfer et Mini-Moi et Anderson et Gallows. C'est nul. Après, donc le match a lieu hein, entre Anderson et Gallows et Big Show et Enzo, qui forment une équipe apparemment maintenant. Après la pub, donc évidemment les Good Brothers, là, ils ont isolé Enzo. Big Cass débarque pendant le match, il distrait le Big Show qui n'est pas l'homme légal, mais qui va quand même se manger un big boot de Gallows. Roll-up de Enzo sur Gallows, mais il se fait sécher par Anderson, qui est en fait l'homme légal. Victoire de Anderson et Gallows. Big Cass revient porter un big boot sur le Big Show. Il se fait attaquer par Enzo. Course poursuite autour du ring et Big Cass se mange un knockout punch du Big Show. Donc défaite de Enzo et Big Show face au Gallows et Anderson. Big Cass qui vient, qui met des coups de pied mais qui finalement se fait sécher. Un segment la semaine dernière qui faisait le main event, hein, Big Show, Big Cass, ça a plutôt bien marché au niveau des audiences, bizarrement. Raph, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
C'est un peu la merde, c'est un peu nul.
C'est un peu de la merde, c'est un peu nul.
Non, pour moi, la seule. Qu'est-ce qui pourrait être une bonne idée? Disons que je trouve sur le principe, s'être dit, allez, Enzo Amore, il va passer de Big Cass au Big Show, c'est rigolo, c'est possible. Hein. C'est mieux que d'avoir laissé Enzo tout seul se faire démonter la gueule. Par contre, ouais, Big Cass, moi, je suis sûr que ça va très mal se passer parce que je le trouve pas intéressant en heel. Le Big Show, bon bah, est plutôt jeune. Anderson et Gallows, je trouve c'est pareil, c'est déprimant quoi. Ils ont leurs personnages ont vraiment aucune ambition quoi. C'est les mecs qui arrivent du Japon et ça fait un an qu'ils nous l'ont rabâché et ils viennent interrompre ce segment-là. Putain, vous avez rien d'autre à foutre que de venir dire à un géant quadragénaire et à un petit nain, hey, vous êtes des nerds. C'est nul quoi. Les mecs, vous voyez plus haut. Donc, pas grand-chose d'intéressant. Mais la WWE pourrait tester un truc au point où on en est. La semaine prochaine, vous mettez Big Cass tabassé par Enzo Amore et vous faites arriver pour le sauver Jason Jordan. On verra comment réagit la foule. Je propose un truc.
Tant qu'à avoir de la merde, autant la regrouper au même endroit.
Big Cass, en tout cas, il est assaut à fond, donc pourquoi pas.
Mm. Ouais.
Ah, on aurait l'équipe la plus haïe du roster. Hank.
On s'en fout.
On s'en bat les couilles. Hein.
Voilà. On s'en fout total. Je sais pas. On en reparlera quand ça sera intéressant. Voilà.
Ouais. Mais n'enterrez pas trop vite Enzo Amore qui est quand même super populaire. Hein. Donc je.
Ouais, non mais tant mieux s'il y a des gens. Tant mieux s'il y a des gens qui sont pas intéressés par l'écriture d'une histoire ou par la qualité d'un match, qui sont intéressés juste par un mec qui gigote et qui raconte la même chose semaine après semaine. Moi ça me gave donc tant pis.
Voilà. allez une autre superbe Rivalité bien troussée, Finn Bálor qui arrive au ring. Il rappelle qu'il a rossé Bray Wyatt la semaine dernière. Et il dit que bon, Bray Wyatt le fait un petit peu flipper, mais il faut casser la gueule à la peur. Il faut lui mettre un coup de poing au visage de la peur.
Comme le terrorisme.
Voilà. Et il finira tout ce que Bray Wyatt commencera. Hein. Donc, ça rigole pas. Alors là, Bray Wyatt se téléporte dans le ring. Il se fait botter le cul. Il disparaît. Il revient sur le titan tronc. Il traite le public de mouche à merde, si j'ai bien compris. Et voilà. C'est un pas de plus dans la rivalité entre Bray Wyatt et Finn Bálor, le mangeur de monde, contre le Demon King. Hank. Difficile.
Je préférerais me faire manger par les vers de Sister Abigail que voir la suite. Non, mais... Finn Bálor, apparemment. Alors moi j'ai un peu regardé j'allais dire de regarder de travers. Je devais regarder un autre truc en même temps que ce segment. Donc du coup j'ai raté ce passage, mais j'ai entendu que Finn Bálor avait dit que pour Bray Wyatt les victoires et les défaites n'étaient pas importantes. Un truc comme ça.
Oui, exact. Mm-hmm.
Et apparemment, c'est le seul truc à retenir de ce segment, mais à mon avis, ils en ont pas fait exprès. Ils en ont pas fait exprès de sortir cette phrase-là, je pense que c'est juste. Ou alors, c'est un mec, tu sais, c'est un stagiaire dans l'équipe, qui fait oh, si on mettait un peu de cohérence là-dedans, bon, personne va s'en rendre compte. Mais donc voilà, apparemment, c'était la seule phrase intéressante, mais ils vont pas du tout appuyer là-dessus, hein. Je pense qu'ils vont oublier totalement la semaine prochaine.
Je crois qu'il y a un dialoguiste qui utilise toutes les analyses d'Internet qu'il lit pour faire ses dialogues. Hein. C'est pas possible autrement.
Et
hein.
pour le coup, autant je vais résumer mon avis sur Big Show, Big Cass, Little Enzo Amore. On s'en fout intégralement. Là, je dirais, on s'en fout. Donnez-nous le match. Voilà. Juste voir le match. Voilà. Je pense que le match va être sympa. Je pense que le match va être sympa. L'histoire. Nul comme d'habitude, enfin, de toute façon ça fait des semaines qu'on répète la même chose, donc ça n'a pas changé cette semaine, ça ne changera pas jusqu'au pay-per-view, donc donnez-nous le match, le reste je m'en fous. Voilà.
Raph.
Ouais, ben je parlais d'ambition là pour Gallows et Anderson, c'est pareil. Bray Wyatt, ils ont créé un personnage qui a beaucoup trop d'ambition pour ce qu'ils lui font faire. Alors c'est vrai que ça fait des années, il a eu un championnat du monde un mois, du coup il passe pour un plouc, quoi. On comprend pas très bien, on se souvient même plus trop pourquoi il a attaqué Seth Rollins qui se met à attaquer Finn Bálor. On sait même plus, comme tu disais, il perd, il gagne, on s'en fout, on sait plus. Hein. On rappelle quand même qu'il finit la feud contre Orton plutôt gagnant, puisqu'il gagne le House of Horror match, même si on a préféré oublier. Il a battu Seth Rollins clean pendant deux fois, en fait, donc il est sur une pente plutôt ascendante. Et bon, non, c'est juste la même rivalité que d'habitude, il apparaît, il disparaît. Donc là, facilité d'écriture totale. Il dit des trucs totalement random, et puis à la fin, soit il va gagner, soit il va perdre. Alors on va peut-être avoir un seul match, ou deux, ou trois. On ne sait pas trop ce que ça donne. Mais je trouve que Finn Bálor est un bon adversaire, qui a du charisme, qui marche assez bien là auprès du public, qui avait besoin d'être reconstruit petit à petit plutôt que d'être mis avec une fusée au cul direct. Donc ça peut donner un bon match, et sur le principe, la rivalité s'écrit, mais bon, c'est pas très bon, quoi. C'est même très mauvais.
Ils se reposent quand ils ont Bray Wyatt. Ils se reposent sur Bray Wyatt. C'est assez simple. Le mec se téléporte, il joue avec les lumières, il fait son petit blabla que personne comprend. Et puis ça va tout doucement jusqu'au match. Ça aura toujours de la gueule, puisque Bray Wyatt, il a quand même un physique, il est quand même propre dans le ring, assez percutant. Voilà, du coup, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts.
Faut juste espérer que ça soit un match, en fait. Faut juste espérer
que ça j'espère qu'il n'y ait pas qu'il nous sorte
juste
le
ce
carnaval
match-là,
de
quoi,
l'horreur.
Que ça ne soit pas une connerie du genre « Oh là là !» en fait, c'est Wyatt qui a gagné, donc du coup, Bálor doit avoir sa revanche et tout ça, et que ça dure encore un mois. Quoi.
Peut-être. Hein. Ah bon, voilà.
Par contre, Balor, il fallait lui garder sa fusée au cul, hein, moi je dis. Hein. Il était placé, il était bien placé. Et là, ils l'ont fait perdre contre Roman Reigns. Maintenant, il se retrouve en mid-card. Pour moi, son lancement, c'était réussi. Hein. Ils n'auraient pas dû faire marche arrière comme ça, parce que je pense qu'il a les épaules assez solides. Bon, malgré peut-être qu'ils sont un peu fragiles, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu trop de chance là depuis qu'il est arrivé dans le roster principal. Mais moi, je pense qu'il a le charisme, qu'il a tout ce qu'il faut dans le ring et tout pour être au niveau des main eventers, mais bon, bah, c'est pas les projets actuels.
Avec Brock Lesnar par timer, il faut occuper un peu ces gens-là. Là, les Rollins et les Baylor, ils remonteront au niveau quand ça se libérera un peu en main event, je pense. Enfin, ouais. On verra.
Et Balor, il irait bien avec le Miz. J'aimerais bien.
Avec le démarrage qu'il avait eu à Raw, moi je serais resté sur ce démarrage-là. Il était au-dessus, ils avaient réussi à le placer au-dessus, ils avaient réussi à placer leur babyface.
Le début là, quand il est devenu champion universel en 3 jours là, en battant tout le monde, ouais, c'est, enfin moi je trouvais ça un peu bâclé du coup.
Mais Balor à l'époque où il est arrivé, c'était l'ère de Rollins, qu'il y avait en haut. Le big dog, du main event, c'était Roman Reigns. Il y avait pas Strowman.
Ah ouais, c'était son heure aussi. Hein.
Parce que là maintenant, c'est l'ère des mastodons, quoi. Jusqu'à ce que ça se dissipe, il y a personne qui pèse moins de, je sais pas moi, 120 kilos qui va arriver là-bas. Parce que.
Ah mais t'as que des tuners, t'as pas un babyface.
Moi j'imagine bien Samoa Joe devenir champion du monde cet automne et feuder contre Baylor, hein, ça c'était possible.
J'espère. Mais voilà, moi j'aurais préféré qu'il le laisse carrément au top niveau plutôt qu'à VGT là, affronter le Drifter. Oui, bon, on va pas le voir toutes les semaines.
On devra juger quelle était la meilleure rivalité contre le Drifter ou Bray Wyatt.
Voilà, c'est un peu difficile tout ça. Et puis Bray Wyatt, voilà, ils savent que de toute façon il a son entrée avec les Lucioles, son catch propre, son personnage. Un spectateur qui va tomber là-dessus, bah, il sera plutôt convaincu, je pense, par ce qui se présente. Après, ça reste du truc de feignasse, hein, moi je trouve. Ça va pas être mieux là. Hein. On va passer au Cruiser. Le Titus Worldwide dans les vestiaires, Titus O'Neil, Apollo Crews, Tozawa, ils font les cons, ils sont contents, Tozawa est guéri. Neville débarque, il critique un peu le management de Titus, hein, il explique t'envoies tout de suite Tozawa te battre ce soir face à Daivari, alors qu'il vient juste de se rétablir, c'est quand même un peu bizarre, ça risque d'être dangereux, etc. On a ensuite un match entre Daivari et Tozawa, donc. Titus O'Neil pardon, est au commentaire, mais un peu comme moi, il n'arrive pas à aligner deux mots, donc c'est un petit peu laborieux. Victoire de Tozawa, on fait un selfie à la fin du match. Voilà, rapidement, 30 secondes sur les cruisers, Hank.
Le match n'était pas terrible, par contre, le reste, moi j'ai bien aimé. Le fait que Neville vienne le voir dans le vestiaire pour lui dire « mais t'es complètement con d'avoir accepté un match contre un mec que t'as déjà battu pour une opportunité pour le titre, donc du coup le gars il a rien à perdre, Daivari, donc du coup il allait tout faire, Daivari il allait tout faire pour blesser Tozawa avant son match de pay-per-view, c'est en pay-per-view le match ou c'est à 205 Live? Non, c'est en pay-per-view, c'est à SummerSlam. Donc voilà. Là, le truc, c'est qu'ils vont devoir combler quelques semaines alors que tout est déjà programmé, quoi.
Et surtout que Daivari a rien fait pour blesser Tozawa finalement dans le match.
Ouais. Bon, je vais pas regarder de près, mais bon. Non, mais le match, voilà, le match il servait à rien. Enfin, je veux dire, il n'était pas. C'est pas un match que je recommanderais. Mais j'ai hâte de voir Tozawa Neville. Hein,
qu'on l'a déjà vu ce match.
Oui, non, mais j'ai hâte de le revoir. Voilà, j'ai hâte de le revoir. Non, mais tu dis, on l'a déjà vu. Est-ce que c'était au dernier pay-per-view ou alors est-ce que c'était à 205 Live?
C'était en kick-off au dernier pay-per-view.
Ah oui, non, c'était le kick-off. Mais je pense qu'ils peuvent faire un un truc bien.
Ils
et juste...
peuvent faire un bon match, mais il faudrait qu'ils le fassent, quoi.
Ouais, voilà. Et, bon, et je pense que c'est le moment, voilà, lâcher, enfin, je l'ai déjà dit, mais arrêtez de vous reposer sur Neville, hein. C'est le moment de tenter Tozawa. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais bon, Neville, on a déjà eu toute l'étendue de ce qu'il pouvait faire, quoi, comme champion. Là, c'est bon, il faut passer à Tozawa. Après, qui va y avoir d'autre pour à builder entre guillemets pour être contre Tozawa par la suite? Ça, c'est sûr que c'est compliqué parce que chez les Cruisers, ça a demandé Tozawa pour le construire, enfin pour faire un personnage vraiment attachant, tout ça, et ça a mis quelques mois quand même. Mais bon, moi, Titus Worldwide, ça me fait marrer. Maintenant, ils ont un t-shirt en plus. Why not? Par rapport au niveau habituel des Cruisers, je veux dire, la storyline me va.
Ok. Toi, Tozawa champion, ça te trouve ça alléchant, Raph?
Pas trop, non. Enfin, ouais, non, moi c'est un peu l'inverse. Hein. Je trouve qu'on a vraiment l'impression qu'il y a le roi Neville tout en haut et en bas, ça fait un peu cours de récré, quoi. Donc ça pourrait être un coup de tonnerre et ça pourrait être étonnant que le petit Tozawa arrive au niveau. Mais ouais, moi ça me fait pas spécialement marrer. Ça fait un peu, ouais, gamin, selfie, cours de récré, tout ça. Et à côté, Neville, il est tellement dans un truc un peu médiéval, là, de lutteur, de violence. Enfin, on a quand même beaucoup perdu, là, depuis qu'il y a plus Austin Aries. Et ouais, non. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire un très bon match, ça, c'est clair. Pourquoi pas Tozawa gagner et revoir Neville dans cette position de mec hargneux qui veut récupérer son truc, ça, c'est sûr. Après, je sais pas, hein, Titus Worldwide, du coup, Apollo Crews, il sert plus trop à grand chose. Alors, je sais pas, peut-être qu'il est blessé, je ne sais pas, mais c'est pas l'utilisation optimale, il me semble, de tous les personnages. Voilà.
Bon, après, en même temps, ils n'ont pas le temps. Hein.
Oui,
dire, Arrow, ils ont le temps de faire une rivalité et point barre. Ah, quand ils en font deux, le deuxième match, c'est dégueulasse. C'est un truc qui dure 3 minutes. Quand il y a une storyline de rattaché, c'est Brian Kendrick qui met une moustache pour imiter Gallagher. Enfin bon. Non, merci.
Alors, je crois qu'il y a. Il y a un match entre Pete Dunne et Jack Gallagher qui doit aller se faire, mais dans une fédération indépendante pour
dans
le
un
titre
pub.
UK. Ouais, dans un pub, oui. ou c'est peut-être à NXT Brooklyn, mais j'ai vu des pubs pour un.
Non, parce qu'ils font.
Pour une autre fédé.
Ouais, ils prêtent de temps en temps le titre WWE UK pour les petites fédés anglaises. Ils font quelques matchs comme ça à droite à gauche.
Donc, ça pourrait sauver les Cruisers, hein, de faire ramener les Anglais. Mais bon, Roman Reigns est interviewé par Renee Young. Il explique qu'il en a rien à foutre de rien. Il a envoyé l'Undertaker à la retraite. Il va envoyer Brock Lesnar à la retraite. Ça le dérange pas. Ce soir, il bat Strowman et à SummerSlam, il va gagner le titre de champion de l'univers.
Big Dog, Big Dog.
Big Dog, believe that. Goldust, il a beaucoup d'amour à donner, Goldust.
Oh non.
Et il prépare un nouveau chef-d'œuvre.
Oh putain.
Plus d'infos après SummerSlam.
Ou pas.
Ou pas. J'espère pas. Big Cass rencontre Kurt Angle dans les coulisses et ils vont booker pour SummerSlam Big Cass contre le Big Show, mais il faut pas qu'Enzo intervienne. Alors Kurt Angle a l'idée de l'enfermer dans une cage anti-requin accrochée en haut du ring à la manière d'un Chris Jericho. Voilà. Donc voilà ce qui se passera à SummerSlam, c'est booké, Big Cass.
C'est booké, votre pause pipi, elle est bookée.
C'est ça,
vous
un
l'avez trouvé
dans une cage. voilà, on en reparlera à SummerSlam, je pense.
Ah, si seulement c'était en pré-show, si seulement.
Ah non, ça ce sera en milieu de show, ça va être,
ah, putain.
Ça va être le pinacle de la soirée. Allez, on arrive au main event. Last
oui.
Man standing,
oui.
Braun Strowman versus Roman Reigns. Fini les enfantillages. On annonce quand même Finn Bálor contre Bray Wyatt à SummerSlam, hein, c'est validé. Et Sasha Banks contre Nia Jax pour la place de First Contender la semaine prochaine. Donc un match évidemment super violent, Braun Strowman qui prend l'avantage assez rapidement, Roman Reigns est obligé d'utiliser les escaliers de fer pour essayer de tuer Braun Strowman, hein, il va l'écraser à coup d'escalier, il va essayer aussi, il va le passer à travers la table aussi avec un Samoan Drop impressionnant. Il y a aussi un autre spot impressionnant où Roman Reigns va courir pour aller sûrement emporter un Superman Punch ou un Spear, mais ça se fait à l'extérieur du ring et Braun Strowman prend un fauteuil et lui jette le fauteuil à la tête de manière très très violente. On va aller se battre dans le public, on va jusque sous le titantron. On s'envoie sur les écrans, hein, c'est toujours très violent Braun Strowman quand il s'agit d'écraser la gueule de Roman Reigns. Là-dessus, on va utiliser la rampe, hein, qui va jusqu'au ring. Un premier spear est contré par un violent coup de pied de Braun Strowman, mais le second spear de Roman Reigns touche sa cible. On commence à décompter les adversaires parce que c'est un Atman standing, hein, donc il faut que la personne reste KO jusque 10. Les deux sont à terre, on les compte. Reigns se relève. C'est un peu bordélique parce qu'on ne sait pas trop où on est de compte. Et là, il se fait apaguer par quelqu'un dans le public. C'est Samoa Joe. Il surgit de la foule. Il lui porte le coquina clutch, un coquina clutch létal. Roman Reigns s'écroule. On recommence à compter les deux adversaires parce que Strowman est toujours KO. On en est à 9 quand Strowman se relève comme un seul homme. Victoire de Strowman suite à l'interférence de Roman Reigns.
Non, l'interférence de Samoa Joe, quand même.
De Samoa Joe, exactement. C'est ce que j'ai dit. Hein, pour écouter les bandes. Alors, j'ajouterai simplement que le spot du fauteuil, qui était très très impressionnant, a été piqué à la New Japan,
oh là là,
climax,
oh là là,
dans un affrontement entre le dieu Okada et Evil, la révélation du G1. Mais bon, quand on prend des choses qui sont bien, bah, ça donne des trucs qui sont bien. On a le droit de piquer, c'est pas grave. Ils avaient fait ça avec une chaise, eux, là c'est avec un gros fauteuil. C'est pas les mêmes gabarits en même temps. Hank, qu'est-ce que tu as pensé de ce monstrueux main event?
Oui, c'était monstrueux, c'était excellent, encore une fois, je sais plus si c'était le dernier Raw qu'on a présenté ensemble, dans lequel on était dans le même podcast, mais on avait eu un Raw comme ça qui était genre pénible et jusqu'au main event qui était, justement, c'était encore Braun Strowman, Roman Reigns, je crois, qui avait un peu sauvé la soirée. Triple Threat. Moi, je sais plus.
Il y avait Samoa Joe aussi.
Par contre, il n'y a plus de lumière chez toi, Ring. Tu es
dans le noir
quasi intégral. on va perdre. Voilà. On perd l'électricité au fur et à mesure de ce podcast. Hein. Envoyez des Sioux.
Envoyez des Sioux, oui, merde.
Voilà. Et donc, oui, non, mais c'est incroyable. Enfin, Roman Reigns, incroyable. Enfin, il est beau Roman Reigns. Ça c'est du Giscal. Hein. Si vous voulez un jour les transcriptions de nos conversations sur Skype, hein, si vous voulez le résumé de ce que dit Giscal, généralement c'est John Cena, il est incroyable, c'est le meilleur homme du monde et Roman Reigns, il est trop beau. Voilà, c'est à peu près Giscal sur Skype.
Il est très fort.
Si vous sentez quelque chose de vaguement érotique dans ses descriptions, ne vous inquiétez pas, il est déjà casé. Donc c'était très bon. Pourquoi c'était dans un Monday Night Raw? Pourquoi ça n'avait aucun rapport avec rien, hein, finalement? C'était un petit peu juste, oh, bah, on va prendre ces deux là et puis on va faire un match de pay-per-view, hop. Voilà. donc c'était un match de pay-per-view, hein. La violence et les risques qu'ils ont pris sont dignes d'un pay-per-view.
Quand il l'achevait avec les escaliers, là, j'avais jamais vu ça, moi, un mec se faire défoncer comme ça.
Ouais.
Un coup d'escalier, d'habitude, il y a un peu de protection. On voit qu'il le positionne bien. Là, il a été comme un seul homme à coup d'escalier.
Mais les deux, je serais tellement intéressé de savoir quelles conversations ils ont, tous les deux. Parce qu'ils doivent être en mode, bon, ça marche bien, notre rivalité, ça plaît beaucoup aux gens, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est toujours les meilleurs moments. De toute façon, dans le catch, c'est quand t'as deux catcheurs qui commencent à avoir une bonne alchimie et qui commencent à chaque match à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus choquant, de plus étonnant dans leur match. C'est un petit peu Cena et AJ Styles, même chose. En plus athlétique, Cena et AJ Styles, c'était vraiment du catch au sens plus artistique, je vais dire. Alors que pour le coup, Strowman Reigns, c'est de la torture, quoi. C'est c'est de la violence et c'est des mecs qui je pense semaine après semaine commencent à peiner. Enfin, physiquement, je me demande comment ils tiennent parce que. Mais voilà, c'est fantastique. Je suis prêt à oublier qu'il n'y a pas vraiment de raison pour ce match, tellement il est bien. Donc voilà, ça fait presque regretter. Moi, j'en suis au point où je veux voir encore Roman Reigns, Strowman à SummerSlam juste à part.
Bah ouais, on sent qu'ils auraient pu encore nous sortir un match énorme. Bah ils l'ont fait là, mais on l'aurait voulu dans le cadre d'un pay-per-view, c'est sûr. Ouais. Surtout que c'est idiot un petit peu de les faire catcher dans un match last man standing comme ça avec des armes et tout, à deux semaines d'un pay-per-view, t'en blesses un des deux, bah t'es bien
et
dans
le
la merde.
Spot,
hein.
Mais non, mais comment vous pouvez mettre juste dans un weekly le spot de Roman Reigns qui soulève Strowman et le passe dans une table? Parce que ça, c'était mais incroyable. Ça, mais je... J'étais sur le cul pendant 5 minutes après, je me disais, mais quand même, il a fait ça, genre, y a rien, y a pas d'artifice. Il soulève Braun Strowman et il le retourne. Bravo. Roman Reigns, t'es un héros. Donc voilà. C'était génial.
Raph, convaincu par ce pay-per-view?
Ah bah c'est pas du pay-per-view, c'est du main event, vrai. Mais ouais, c'est du pay-per-view quality, ouais, c'était très bon. Et pour tout vous dire, en plus, j'avais un timing assez serré hier soir, j'ai regardé la fin en étant au téléphone avec quelqu'un d'autre, j'avais coupé le son, mais ouais, ça m'a pas empêché d'être hyper impressionné, quoi. Et c'est très bien scénarisé, mais c'est hyper bien exécuté, parce que des fois... Tu sais, tu mets un peu, bah, comme tu disais, pour le coup de l'escalier, hein, tu vois les rouages du catch, tu vois qu'ils font exprès de choisir l'angle et tout. Là, c'était hyper visuel, le fauteuil dans la gueule, c'était pas à côté, c'était pas un peu comme ça en protection, c'était le fauteuil dans la gueule. Le spear que lui fait, c'était un de ses plus beaux spears, là, je crois, hein, quand il... Alors, le coup en deux, là, avant que Samoa Joe arrive, c'était... Ouais, c'est un putain de match. Pour moi, on verra en décembre, mais je pense que là, on a la rivalité de l'année, hein, très grosse feud. Roman Reigns est très bon, et je trouve qu'ils ont vraiment bien corrigé le personnage. Là, ils ont arrêté de le faire gagner tout le temps systématiquement en weekly. Il perd, alors sur des interventions, mais il perd. Par rapport à Braun Strowman, il a vraiment... il faut qu'il sorte le meilleur de lui-même, parce que l'autre arrête pas de le battre, hein, quand même. Donc c'est de la bonne feud, c'est violent, que dire de plus, c'est moi je trouve ça assez intéressant d'imaginer le Fatal 4-Way avec tous ces mecs dedans qui ont des interactions diverses, qui ont des raisons de s'en vouloir diverses, ça me plaît, ça me parle, et je sais pas ce que ça va donner, mais là pour le coup c'est du vrai caviar. Et Braun Strowman, il y a 2 ans on savait pas qui c'était, on savait même pas s'il était capable de faire un bon match à part d'avoir un masque de mouton, et puis là c'est un dans la catégorie construction d'un main eventer, là ils ont tout bon, quoi, ils ont 5 sur 5 avec ce mec là
bon allez, on va passer
au mot de la fin. Le mot de la fin.
J'entends pas très bien ton son. Mon flop, mon top. Alors, mon flop, je vais le mettre directement à Bailey, hein, mais pas à Bailey, juste au fait qu'il continue d'assassiner le personnage de Bailey, j'en ai marre. Mon top... comment vous pouvez mettre autre chose que Reigns, Strowman comme top, enfin c'est il y a pas de concurrence, même si je il y aurait une bonne note pour Ambrose Cesaro, mais quand même, quoi, enfin il y a rien, c'est 10 niveaux au-dessus de tout le reste de cet épisode, quoi, ce Reigns Strowman, donc voilà ma note. C'était un Raw avec plein de trucs chiants. Un très bon match et un match exceptionnel. Mais le match exceptionnel était tellement exceptionnel que je vais mettre même 3. Parce que vraiment voilà, le Strowman Reigns était. Je le remettrais genre maintenant. Si on me dit ouais, on se remet le match maintenant, oui, d'accord, direct.
Vendu.
Eh bien, pour moi, niveau flop, je pensais à la même chose, mais je vais mettre un flop au traitement de Jason Jordan contre le Jobber, même si peut-être que c'est en fait un début de piste, mais non, là, dans l'état actuel, c'était nul. Le top, bah oui, hein, et Hank l'exprime très très bien. Bravo pour ton lyrisme, camarade. C'est vraiment 10 niveaux au-dessus, c'est des putains de gladiateurs, quoi. Alors, c'est ce qu'aime Vince McMahon à fond, mais en même temps, là, pour le coup, c'est ce qui nous touche à tous, quoi. C'est des putains de Golgoth qui sont au-delà de tout le monde et qui vont se battre pour un putain de bouclier. Donc, ouais, et Samoa Joe a quand même fait son apparition, il est là, Lesnar était là, ouais, non. Là, le casting du main event est très bien choisi. Et du coup, bah ouais, j'hésitais entre 2,5 et 3, mais on va garder le 3, puisque c'est vrai qu'il y a aussi une bonne intro avec le Miz. Il y a des passages sympas avec Cesaro, avec Rollins. Bon, ouais, 3, parce que sauvé par les bons moments.
Voilà, on a fait le tour de ce Monday Nitro. Raph, merci beaucoup d'être venu.
Salut, merci, merci, salut.
Hank, pareillement, merci beaucoup.
Salut tout le monde.
Et les amis, bah, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao, ciao. Voilà.
Voilà.
Bon boulot.
Ça c'est imparable, hein. Voilà. Ils y verront que
Que
du
du feu,
feu.
alors là, quel merveilleux acteur.
Que du fuego.
Ah merde, j'aurais dû faire la pub pour le supplément. Bon.